Bienvenue dans la pause fitness. Alors, c'est le nouveau nom du podcast de Fitness Miss. La pause fitness, c'est un rendez-vous hebdomadaire. En règle générale, vous avez accès à l'épisode le mardi et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Google, Spotify, SoundCloud, YouTube également. Et je vous inviterai juste, si ça vous a plu et si vous suivez depuis quelque temps, de me laisser une petite évaluation sur la plateforme de votre choix. Ça démarre maintenant.
Salut Ghislain.
Salut Théo.
Comment vas-tu?
Eh bien, ça va, en pleine forme.
Ouais. Bon, en fait, on va faire un petit épisode bonus là pour le podcast. Et puis, on va parler un petit peu de ta progression, de voir un petit peu ton parcours. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas, l'âge que tu as, le poids, la taille, et puis voilà, ton activité professionnelle, le temps que ça fait que tu t'entraînes, etc.
Alors, j'ai 35 ans, j'ai commencé à m'entraîner il y a un peu plus de 8 ans. Sur ces 8 années, j'ai quand même eu une grosse blessure à l'épaule. Après, j'ai fait une formation en tant qu'éducateur canin, donc ça m'a pris 9 mois, mais j'ai réussi à m'entraîner quand même en même temps. Ce qui a fait que j'ai commencé la muscu, en fait, c'est que je pesais 85 kilos.
Ouais.
Et pour 1m70. Donc du coup là, je commençais à me dire, mince, visuellement et tout, je me sentais pas bien, j'étais essoufflé, je me disais bon, il y a un problème quoi. Donc je commençais à fréquenter les salles de muscu.
Ouais.
Là, ça a été hyper compliqué parce que forcément, je mangeais des sandwichs. J'étais livreur à l'époque, donc je mangeais des sandwichs, je mangeais des trucs. Donc quand j'allais à la salle, j'étais hyper fatigué, tous les muscles qui tremblaient. Enfin, c'était l'horreur quoi. Tout pour abandonner quoi en fait.
Mais tu penses que c'était lié à la bouffe ou au stress?
Non, c'était lié à la bouffe, je pense.
D'accord.
Parce que je mangeais des sandwichs, je mangeais pas forcément des choses qui étaient qui me permettaient, je pense, de faire des efforts quoi.
Ouais.
Parce qu'après, quand j'en ai parlé au coach de la salle, il me demandait ce que je mangeais, je lui ai expliqué ce que je mangeais, et quand j'ai changé mon alimentation, ça commençait à aller mieux déjà.
Et oui. Ok, donc du coup, aujourd'hui, tu as changé de travail.
Alors aujourd'hui, j'ai changé de travail. Ma vie, on va dire qu'elle est un peu plus remplie, dans le sens où c'est que je suis donc éducateur canin, donc je bosse à mon compte. Cela me permet pas d'en vivre, donc du coup, j'ai un job à mi-temps l'après-midi, où c'est que
donc,
je fais.
Deux jobs en fait.
Ouais, j'ai deux jobs. Et en plus de ça, je fais la construction de ma maison. Donc, du coup, j'ai des journées hyper remplies, quoi.
Et tu arrives à t'entraîner et à bien.
Ah oui, complètement, ouais. Ah oui, oui.
Ok. Donc, on peut voir que quand on est triplement occupé, on arrive quand même à s'entraîner, à prendre soin de soi, quoi.
Oui, complètement. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, dans l'entourage, les gens, ils disent mais c'est pas possible, tu tiendras pas le coup. Même mon médecin, hein, je suis parti fâché du cabinet parce que j'avais ma compagne qui était avec moi. On a halluciné quoi. Elle me dit que c'est pas bon, que je suis complètement addict au sport, que c'est pas une bonne chose, que je vais pas tenir le coup, que là, à l'âge que j'ai ça va, mais quand je serai plus âgé, mon cœur il va pas tenir. Enfin, plein de choses comme ça quoi. Et c'est complètement déroutant parce que on est censé être chez un médecin. Enfin voilà. Moi, je mange convenablement, je fais du sport, je fais tout pour être en bonne santé. Et en face, on réceptionne des choses comme ça. Donc, du coup, c'est un peu compliqué quand même. Ouais.
Bah après, c'est vrai que y a le côté addictif du sport qui est certain pour tous les passionnés. On aime s'entraîner. Voilà, quand on ne s'entraîne pas, on n'est pas bien, etc. Mais après, il y a ce côté aussi où il faut trouver l'équilibre dans le sens où on ne peut pas tout le temps demander sans se reposer, c'est-à-dire qu'on peut pas en permanence fournir des efforts, sans oublier la part de récupération, des bonnes nuits de sommeil, des périodes no stress où on va se promener en nature, enfin voilà, toutes ces choses-là. En fait, c'est un équilibre. Mais après, si toi tu fais du sport aujourd'hui, t'as un entraînement physique plus tes activités, Quelle est la différence entre ce que tu fais et, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête, d'un gars que j'avais aidé il y a quelques années, je ne sais pas s'il écoute encore les podcasts, mais qui était bûcheron. Lui, c'était toute la journée. Je crois que être bûcheron, c'est un des métiers les plus physiques qui existent. Donc lui, toute la journée, il était à tronçonner, à transporter des troncs, etc. Plus il faisait du sport, mais bon, rien que son métier, c'était plus physique que toi, peut-être ce que tu fais aujourd'hui. Et pourtant, personne lui dit attention à ton cœur ou tu vois. Alors que il me semble quand même que faire de la muscu, c'est quand même dans une zone un petit peu plus de contrôle. C'est-à-dire, on va avoir au niveau santé, on place notre corps dans une meilleure configuration que quand on fait un métier manuel où on fait pas forcément attention à sa posture, etc. quoi. Donc, il faut toujours. Bon, après, les médecins sont médecins, donc moi, je remettrai pas en parole leur, en doute leur parole, parce que bon, voilà, on est sur un podcast public, etc. Je veux pas faire la théorie du complot ou tous ces trucs là, mais c'est vrai
qu'en
fonction du point de vue il faut se dire une chose, c'est que le médecin, lui, il voit dans son quotidien des gens qui ne sont pas en forme. Donc, en fait, le petit biais cognitif qu'il peut y avoir, enfin le petit biais pour lui, c'est qu'il a en face de lui en permanence une population à soucis. Et quand arrivent des personnes qui sont plus ou moins en forme, c'est de la nouveauté, puisqu'on va pas voir le médecin quand on a un bon style de vie. En règle générale, on tombe moins malade, etc. Donc si tu veux, il y a ce côté-là où la personne a affaire tout le temps à des personnes entre guillemets en mauvaise santé, et quand il doit faire face à des personnes en bonne santé, il y a un petit décalage. Alors ils sont formés pour ça, hein, je peux comprendre que ça puisse choquer. Après, bon, voilà. Toi, si tu arrives ça fait combien de temps que tu tiens ce rythme de vie-là?
Ça fait depuis le mois d'octobre.
Le mois d'octobre, ok. Et tu arrives à t'accorder des périodes de repos quand même ou pas?
Alors oui, complètement, parce que en fait ce qui se passe, c'est que je vais t'expliquer ma journée. Je me lève, il est 7h, je déjeune pas, vu que ça aussi je l'expliquerai plus tard. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de temps. Ma gamelle est prête le soir quand je rentre. Donc en fait je vais balader mes chiens en forêt. Donc je suis tous les jours, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je peux dire que je passe minimum 1 heure par jour dans les bois. Et ça ressource énormément, il y a gavé d'énergie dans la forêt. Et moi j'ai pu le constater en fait, en partant un peu énervé ou stressé, je ressors de ma balade, je suis détendu. Donc bon, je pense que j'ai cette part de détente là le matin avec mes chiens. Après je pars faire mes clients et mes livraisons, parce que je vends aussi des croquettes, donc je fais mes livraisons aussi. Et après je vais faire mon entraînement à midi, et après j'embauche à 14h30 pour débaucher, pour finir à 20h, et je suis à 20h30 chez moi. Voilà, donc après le soir je rentre, je fais ma gamelle, je mange, et puis après je regarde peut-être un petit film selon l'heure, ou sinon je vais me coucher, quoi. Voilà.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, est-ce que la qualité de ta vie de couple a-t-elle changé depuis que tu as adopté ce style de vie? Est-ce que c'est parce que souvent on entend ouais, mais t'as plus de vie sociale, t'as plus de vie de couple, etc. Est-ce que pour toi ça s'est dégradé, ça s'est maintenu, ça a rien à voir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ça?
Ben non, forcément ça s'est arrangé, parce que ma compagne, elle voit que je me sens mieux dans mon corps, que je suis bien. Mmh. Et puis bon, après faut dire ce qui est physiquement. Si on peut être honnête, au niveau de la libido, j'ai vu que ça l'a complètement changé, quoi. Parce que bon, mais voilà, ça donne envie aussi d'avoir quelqu'un qui est beau, enfin qui se sent bien, qui a un joli corps, enfin voilà.
Donc ça a changé. Moi j'ai les photos sous les yeux là, puisque tu me les as envoyées. La photo, oui. T'es face à ton miroir. Alors je connais pas la date. Bah si. Ben non, je vois pas la date. Mais bon, en tout cas, on voit bien quand t'étais gras, hein, on va dire ce qui est. Et après, tu vois la photo dans les vestiaires où t'as la taille bien marquée, les abdos qui sont apparents. En plus, la lumière est pas exceptionnelle. On voit des bonnes épaules, des bons bras. Enfin, je veux dire, t'as quand même un physique. C'est rien à voir. Même la tronche, quoi. Même le visage. T'as le visage qui est vachement plus serré, plus masculin, quoi, on va dire.
Ben, c'est-à-dire que j'ai une amie, une très très bonne amie à qui j'ai montré ce photo avant après. Elle m'a dit ça a absolument rien à voir. On voit que t'es en meilleure santé. Ça a été ses premiers mots, quoi. Donc Voilà, donc après, ma vie de couple, elle a changé, mais en positif. Je dirais que ça a été au début où ça a été compliqué parce que, ben justement, parce que j'étais vraiment mal, donc j'arrivais pas à changer, j'arrivais pas à perdre du poids. Et c'est là où c'est que ça a commencé à avoir un impact dans mon couple parce que je pensais tout tourner autour de moi. Je ne le regardais presque plus. C'était que moi que je faisais que regarder finalement. Et c'est là où c'est que ça commence à devenir compliqué.
Ouais. Mais en plus, le problème qu'il y a, alors moi j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui était vraiment sympa sur le sujet, c'est que il faut être égoïste, mais il faut en fait avoir ce côté de s'aimer. En fait, il y a des gens qui pensent qu'à eux, mais d'un côté, d'un point de vue négatif, ils sont toujours en train de se plaindre, ils sont toujours en train de remarquer leurs défauts, etc., d'essayer de trouver des solutions, mais ils sont dans un côté négatif en permanence par rapport à la vision qu'ils ont d'eux, en fait. Mais à partir du moment où tu restes toujours pareil, plus ou moins égoïste, entre guillemets, mais que tu t'apprécies, tu t'aimes, tu penses à tes propres besoins pour te sentir bien. En fait, c'est ça qu'il expliquait, là, le thérapeute, dans le bouquin, que c'est ce qui permet, en fait, à l'autre de t'apprécier davantage, quoi. Parce que, justement, il voit, enfin, la personne voit en face d'elle une personne qui s'aime, qui a confiance, etc., et qui du coup, c'est inspirant, c'est attirant, etc., quoi. Mais bon, en tout cas, on va parler un petit peu plus, on va dire, de ce qui est entraînement, nutrition. C'est quoi le déclic? Parce que tu t'es quand même entraîné pendant quelques années sans faire attention à ta diète. J'ai repris un petit peu nos précédents échanges qu'on a eus. Alors, le premier que j'ai ouvert, que je te dise pas de bêtises, il date d'octobre 2018, où tu me disais, au bout de 5 ans de musculation, je me suis enfin décidé de me poser sur mon alimentation. Pourquoi t'as attendu autant c'était quoi en fait la résistance par rapport à l'alimentation? Est-ce que t'y croyais pas vraiment? Est-ce que tu pensais que par rapport à juste l'entraînement, s'il y avait plutôt des techniques magiques dans l'entraînement sans faire trop gaffe à la diète, ou simplement c'était par méconnaissance?
Alors je pense que c'était parce que je basais tout sur l'entraînement et parce que je pensais bien manger. En fait, je sais pas. Je pense que je pensais bien manger parce que je depuis très longtemps quand même je suis assez sensible au fait de bien manger. Donc après je suis un fan des légumes, hein. je peux manger des légumes crus sans aucun problème, je peux manger beaucoup de choses sans aucun problème. Donc dans ma tête, je pense qu'inconsciemment, je pensais bien manger. Après j'ai l'honnêteté quand même de dire que je suis assez feignant dans le sens où c'est que je me suis dit non, je vais y arriver sans calculer, sans calculer en fait ce que j'ai besoin comme protéines, tout ça. Je vais le faire comme ça, je vais y arriver. Et finalement, ouais. Le temps il passe, on vit quand on est dans la vie courante comme ça, qu'on fait des choses, les semaines, les mois ils passent, et puis finalement à un moment donné, on regarde dans son rétro et puis on se dit mais mince, en fait ça fait quand même un bon paquet de mois que je galère. Et après ben j'étais quand je suis arrivé en Gironde, en fait je cherche sur YouTube un exercice et là je tombe sur toi.
D'accord.
Et c'est là le déclic, là était là en fait, c'est toi qui m'a permis ce déclic, quoi, hein, parce que des contenus j'en ai vu, j'ai regardé, et t'as une approche qui m'a permis de comprendre et qui m'a aidé à comprendre, quoi. Voilà.
Bah écoute, tant mieux, c'est bien. Bah en tout cas, en plus, l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait qui me découvrent par rapport à YouTube, et souvent ce sont des vieilles vidéos, parce que du gros contenu YouTube, j'en fais plus vraiment, à part les podcasts évidemment, mais les gens tombent sur des vieilles vidéos, donc c'est toujours intéressant de savoir par quel canal les gens arrivent. Mais en tout cas, c'est vrai que ce que tu disais, y a beaucoup de gens en fait qui sont dans la même dynamique que toi. Ils pensent déjà plus ou moins bien faire au niveau de l'alimentation, mais finalement, c'est peut-être un petit détail qui font mal, mais depuis tellement de temps que ça leur permet pas de changer. Et moi, ce que je recommande toujours aux personnes, c'est que, alors, on peut atteindre un objectif sans compter tous ces macros, etc. Sauf moi, ce que je recommande de faire, bah, tu as dû le voir de toute façon par les vidéos, c'est au moins pendant une semaine d'avoir des valeurs, de compter un petit peu sa diète, juste une semaine, pas plus, et d'enclencher après une diète avec les bons grammes de macronutriments. Et au lieu de se forcer à compter tous les jours, simplement de prendre en photo en fait ces assiettes, ces bonnes assiettes, ces assiettes avec les bonnes répartitions, ce qui permettra instantanément, même dans 6 mois, de se dire bon, écoute, je me remets à la diète, qu'est-ce que je mangeais, au lieu de tout recalculer, de sortir son album photo, les vieilles photos de l'époque, et de se dire ok, il y avait à peu près un tiers de ça, la moitié de ci, etc. Et ça, ça permet de plus jamais compter. Alors je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo que j'avais faite là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même, enfin moi je sais, en plus avec les toutes les recettes que je propose sur les réseaux sociaux, bon, c'est une diète qui m'est adaptée à moi. Moi, je donne juste des idées au niveau gustatif, mais après, la diète, elle est plus adaptée à moi, à mon style de vie. Mais c'est vrai que moi, par exemple, si je regarde des vieilles photos de 2016 ou quoi, ou même quand j'ai fait mon shooting photo, le dernier gros shooting photo que j'ai fait, je dis, ouais, la forme que j'avais me plaisait bien. Bon, ben, je vais regarder ce que j'ai mangé les 4 semaines avant. Tu vois, sur les photos directement. Et ça m'évite de devoir me retaper tous les calculs et tout ça. Parce que moi, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui peut se tenir sur du long terme. Alors, ça va quand on est célibataire, tu vois, qu'on n'a pas d'enfants, qu'on a un rythme de vie où on a un petit boulot peinard, etc., qu'on a le temps, en fait, de faire tout ça. Mais à partir du moment où, voilà, on a une compagne ou un compagnon, qu'on commence à avoir des enfants et tout ça, ça rajoute, en fait, une charge de devoir compter en permanence, quoi. Et ça, je pense que le mieux, c'est de savoir ce qu'il nous faut le plus rapidement possible, donc compter tout au début pour après avoir des repères et avancer à tâtons, on va dire, quoi.
Ben, tout à fait. Moi, je l'ai vu en faisant mes Tupperware le soir, en fait. Une fois, je suis pas allé m'entraîner le midi et puis je suis resté avec ma compagne pour manger avec elle, du coup, et puis j'ai vidé mon Tupperware dans mon assiette. Et ça, et pile poil, c'était pile poil en fait la quantité que ce que je dois manger en fait. Donc finalement, inconsciemment, on enregistre ce qui nous faut, parce que moi, ça fait très longtemps que je pèse pas. J'ai commencé une ou deux fois au début pour regarder et j'ai pas besoin, quoi. En fait, ça se fait tout seul, quoi. C'est
ouais, c'est les automatismes. Et puis en plus, ouais, tu verras, ouais, que au fur et à mesure, plus tu t'habitues à manger ta diète, une diète saine, plus c'est difficile de manger mal. Alors ça, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne font pas attention à leur diète ou qui sont pas vraiment très 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 au point là-dessus, qui pensent que c'est impossible que ce soit difficile, par exemple, de manger des pâtes ou manger, je sais pas moi, du fast-food ou de la pizza ou autre. Pour eux, c'est facile, ça. C'est voilà, c'est quelque chose qui est bon. Ils voient pas la difficulté. Mais quand tu manges vraiment sainement pendant un certain nombre de temps, et pas forcément des années, mais déjà rien que pendant quelques mois, tu te rends compte que manger mal, il faut faire un effort pour manger mal, parce que tu dois volontairement changer ta liste de courses. Tu dois aussi, te cuisiner des choses dont tu as perdu l'habitude de cuisiner, donc du surgelé, je sais pas, enfin d'autres méthodes de cuisson, etc. Donc du coup, c'est les habitudes. Tu rentres en fait dans un confort de manger bien, en fait. Ça devient facile de bien manger et difficile de mal manger.
Je trouvais vachement intéressant que tu dises ça, parce que finalement c'est complètement ça. C'est-à-dire que le week-end, je m'octroie de manger une pizza ou quoi, mais je suis mal, et puis en plus je me sens vraiment pas bien. Je prends plus de plaisir en fait quand, on va dire, le vendredi soir je mange une pizza, le samedi midi je me rêve, il me tarde midi de me faire mes légumes, quoi. Pas parce que je sais que j'ai mal mangé le soir, mais parce que je ressens mon corps qui en a besoin. C'est vraiment un besoin, quoi. Je prends plus de plaisir maintenant à me manger, à manger sainement, manger mes légumes ou ce que je suis habitué à manger, que d'aller manger des saloperies à droite et à gauche.
Parce que je pense qu'aujourd'hui t'es tombé dans une, comment dire, en fait t'es arrivé à un stade. Et ça, c'est marrant, parce que c'est la formation de ce week-end, j'en parle là. T'es arrivé à une étape où, on va dire, tes cheat meals, donc tes repas de triche du passé, ne sont plus compatibles avec ton hygiène de vie d'aujourd'hui. En fait, c'est que tes attentes ne sont plus les mêmes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas préférer peut-être une cuisine thaïlandaise avec des légumes, des choses comme ça au restaurant. Donc ça va être d'autres saveurs, etc., mais qui ne sera plus des trucs archi-free ou pizza ou quoi. Tes repas de triche, tes repas plaisir vont changer. Alors ça va pas, tu vas pas les supprimer, mais tu vas te tourner vers d'autres choses. Moi par exemple, je m'étais tourné, même encore un peu aujourd'hui, mais j'aime beaucoup la nourriture japonaise. Alors qu'avant, mon cheat meal, c'était, il fallait que j'aie un gros McDo ou tu vois, des trucs bien dégueulasses. Aujourd'hui, comme toi, je vais pas dire que ça m'attire plus parce que j'aime toujours ça, mais à choisir, je préfère la nourriture japonaise. Peut-être parce que les saveurs, etc. Et puis, il y a aussi ce côté où ben, je sais que cette nourriture-là, elle va pas me rendre malade, dans le sens malade, pas malade sur le long terme, etc., comme on peut voir dans les reportages et tout. Je parle malade court terme. J'ai jamais été malade après avoir mangé asiatique, par exemple. Alors attention, je parle pas de l'asiatique, le buffet à volonté avec les sushis, les nems frits et tout ça. Je parle vraiment de la vraie nourriture, quoi. Avec ça, je suis jamais malade. Alors que pourtant, si on mange fast-food ou pizza, en fait, faut croiser les doigts. C'est un petit coup de poker, savoir si tu termines la nuit sur les chiottes ou pas. Donc, il y a aussi ce côté immédiat, quoi. Non, mais c'est vrai. Il y a aussi ce côté un peu aigu, on va dire, du cheat meal, l'effet négatif qui peut être. Alors, il y en a qui vont se dire, oh, non, mais ça, il faut pas tomber dans la paranoïa. C'est pas de la paranoïa. Je pense que je vais prendre un exemple du passé. Et excuse-moi, je parle beaucoup, mais. Je me souviens quand j'habitais encore à Toulouse à l'époque, que je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais et tout ça. Même quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé que les maux de tête, le mal de ventre, enfin tous les petits maux qu'on peut avoir, que tout le monde a finalement. Eh ben, j'avais l'impression que c'était un peu des coups de tonnerre comme ça qui tombaient un peu par hasard sur les gens. J'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre mon niveau de stress, ma qualité de bouffe, avec mes symptômes. Tu vois, pour moi, avoir mal au ventre, c'était, j'ai mal au ventre, quoi. Bon, je savais que des fois, en mangeant certaines choses, ça pouvait le créer, mais si tu veux, c'était un peu du hasard.
Complètement, je comprends.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore comme ça, qui pensent qu'elles peuvent pas prendre le contrôle sur ça. Et donc, du coup, quand tu commences à faire attention à ce que tu manges et que surtout tu trouves tes aliments qui te conviennent, tu te rends bien compte que tu te dis, mais attends, c'est quand la dernière fois que j'ai été tordu sur les toilettes ou que j'ai vomi mes tripes ou, enfin, tu vois. Et tu te dis, mais ça, attends, ça, j'ai plus ça. Donc, tu te rends compte qu'il y a quand même une forme de, c'est pas du hasard. Et à partir du moment où tu as compris ça, c'est là que tu te dis, que t'as plus envie forcément de manger des choses qui te rendent malade.
Enfin, voilà. Moi, au début, il me tardait le week-end, mais c'était hallucinant. Hein. Le jeudi soir, déjà, je commençais à penser vite, parce que j'ai envie de me faire hachis un parmentier de canard. Je vais cuisiner ça, un petit truc. Alors, oui, j'ai pris plaisir, mais alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais des palpitations de dingue à cause du gras, mauvais gras. Mais ça me durait pendant une semaine, c'est-à-dire que je sais pas comment l'expliquer, tu vois, ça faisait des contre-palpitations, quoi. C'était vraiment très très désagréable. Et après, du coup, j'ai fini par réduire et changer mes repas de triche. Mmh. Et là, ça a commencé à s'améliorer. Alors après, bon, j'ai fait une cure de magnésium. Je pense que ça m'a aidé aussi. Mais maintenant, je t'avoue que ce qui me donne faim, c'est une assiette de légumes que je vais me faire au wok ça me fait saliver. Je pense à une pizza et ben ça me dégoûte presque, tu vois.
En fait, je pense qu'il y a moi par exemple quand je veux manger une pizza, alors il y en a qui vont rigoler, mais je commande pas des pizzas, tu vois par exemple au pizza YOLO du coin, etc. Moi, les seules fois où j'ai mangé des pizzas, c'était, ces derniers temps, c'est quand je suis parti en vacances, parce qu'il y avait des vrais, je suis allé vers Céramique Provence et tout, il y avait un vrai pizzaiolo italien avec des produits locaux, etc. Ils avaient même leur propre petite épicerie italienne, etc. Là, je me suis fait plaisir, mais ça avait rien à voir. Déjà, il n'y avait pas cette quantité de fromage. Par-dessus, il y avait une tonne de roquettes. C'était de la charcuterie. Tu sentais que c'était de la vraie charcuterie. Et là, j'ai pas du tout été malade. Mais ce genre de pizza, je peux pas la manger. Enfin, ici, ça n'existe pas, quoi. Je peux pas la commander. C'est que des trucs que tu peux manger au restaurant, quoi.
Et la pizza que tu décris, pizza que tu décris, j'ai un ami qui fait ça. Hein. Il a que des produits, la charcuterie qui fait venir d'Italie. C'est de la roquette, enfin c'est vraiment de la super pizza, mais même ça, j'y vais parce que c'est un ami, je fais beaucoup de routes pour aller de temps en temps pour le voir. Donc du coup, je mange une pizza, mais c'est plus comme avant, franchement, hein, c'est plus comme avant du tout. Tous ces plats là Le McDo ou tout Burger King, tous ces trucs-là, j'y suis allé là il y a pas longtemps. J'ai dit à ma compagne, c'est fini, j'y refous plus les pieds parce que payer pour bouffer un truc qui n'a pas de goût, je retrouve beaucoup plus de goût et dans ce que je mange quotidiennement finalement. Enfin, on va me prendre pour un fou peut-être, mais.
Ceux qui nous écoutent, ils vont se dire non mais ils sont tarés ces gars, mais il faut vivre, etc. Mais bon.
Mais je vis. Moi je vis.
De toute façon, il y aura toujours, tu sais, la dernière fois, je sais plus, je regardais une conférence, je sais plus comment il s'appelle, il y a toujours des gens pour critiquer. Tu prends même, tu vois, il y a des gens qui vont critiquer même des œuvres, tu vois, Mozart, tout ça, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Donc que tu fasses une diète ou une autre, les gens critiqueront. Et ça, voilà, le but, c'est que toi, tu te sentes bien, que chacun trouve son bonheur dans ce qu'il fait, quoi. Mais après, est-ce que tu penses avoir trouvé ton équilibre alimentaire au niveau apport, dépense et énergie? C'est-à-dire, est-ce que tu n'as jamais de coup de mou? Est-ce que tu sens que tu as une bonne énergie? Plus d'énergie qu'avant? Moins d'énergie qu'avant? Comment ça se passe? Parce que là, tu as fait quand même une sèche assez impressionnante. Enfin, d'où tu venais. T'avais une sacrée masse musculaire, hein. Il faut pas dire aux gens que tu t'es transformé comme ça aussi rapidement, parce que on voit que t'as une grosse masse musculaire quand tu étais gras, mais on voit aussi que ta masse musculaire, t'en as conservé un gros paquet, en fait, en perdant du gras.
Ben, ça, j'ai envie de dire, c'est pareil, encore une fois, j'ai pas envie de te jeter des fleurs, mais je pense que c'est grâce à toi, parce que j'ai écouté vraiment à la lettre, tu vois, les après-midi, je pars jusqu'à Pau, je fais Bordeaux-Pau, pour aller chercher des chariots et que je ramène. En fait, je voulais un job où je me prends pas la tête. Enfin bon, peu importe, on s'en fout ça. Et du coup, j'ai eu le temps d'écouter toutes tes formations et même des fois de les réécouter plusieurs fois si j'avais pas capté, parce que finalement, on enregistre un peu ce qu'on a envie d'enregistrer ou on fait une sélection inconsciente.
Oui, c'est le but, hein. De toute façon, on a 12 minutes d'attention à peu près. Alors, quand on t'écoute quelque chose pendant 12 minutes, tu retiens. Après, le reste, bon, c'est pour ça. Je réécoute plein de fois. Tout ce qui est conférences, livres audio, enfin, dès que c'est du contenu pédagogique, je réécoute. Même des fois, quand je me fais une sieste, je le mets en fond. Tu vois, je suis tellement un barge, moi, de l'apprentissage que, enfin, voilà, bref, je te laisse continuer.
Mais, je me suis perdu, du coup.
Oui, tu faisais tes allers-retours.
Oui. Et on est, voilà. Je faisais mes allers-retours, donc j'ai écouté beaucoup de contenu. En fait, j'ai pas tout écouté, j'ai écouté ce qui m'intéressait, ce qui me correspondait. En fait, donc je prends pas mal de compléments aussi pour récupérer, c'est-à-dire que je prends des oméga 3, je prends du magnésium, je prends de la mélatonine. Alors ça, c'est un truc de fou parce que j'avais des problèmes de sommeil, parce que je cogite beaucoup, c'est-à-dire que j'ai besoin de tout comprendre et c'est un réel problème.
Donc tu avais des problèmes d'endormissement.
Des problèmes d'endormissement et je suis capable de m'endormir avec un problème et je pense qu'en dormant je le résous, quoi. Je me réveillais dans la nuit et j'avais c'est comme si j'avais réussi à résoudre mon problème, quoi. Tu vois, c'est un exemple, hein, mais j'en étais à ça, quoi. Donc là, je fais un travail sur moi pour essayer d'arrêter de cogiter avant de m'endormir, d'essayer de lire et je vais essayer de me mettre à la méditation justement pour apprendre à lâcher mon cerveau parce que je suis quelqu'un qui cogite énormément. C'est-à-dire que on m'a même conseillé un livre, c'est Trop intelligent pour être heureux. Alors c'est pas une question d'être intelligent, hein, c'est juste un titre, mais c'est de vous chercher à tout vouloir comprendre en fait finalement.
Le truc qu'il y a, je comprends ce que tu dis par rapport à ça, mais ce qui est intéressant, c'est que le processus que t'expliques où tu te couches avec un problème, tu te réveilles avec une solution, te donne une indication sur ce que tu dois faire pour te soulager. En fait, entre guillemets, ce qui se passe, c'est que toutes les solutions, tu gaves ton cerveau d'informations jusqu'au moment où tu as l'impression que tu comprends plus rien, tu n'arrives pas à trouver de solution à tes problématiques, etc. Et c'est quand tu lâches prise que la solution arrive. Mais en fait, tout le monde, enfin tous les plus grands penseurs, Einstein et compagnie, ils ont vécu ça. En fait, c'est quand ils ont lâché l'attention sur leur problématique que la solution est arrivée. Sous la douche, en allant se promener, etc. Donc en fait, ce que tu décris, c'est quelque chose qui est classique, qui est connu en fait entre guillemets, mais qui est pas, enfin qui est connu, qui se sait, mais qui n'est pas, on va dire, répandu pour tout le monde. Après, le côté être en permanence de cogiter, ça peut conduire à de l'anxiété, parce que voilà, on n'arrive jamais, en fait, on n'arrive jamais à s'apaiser, on cherche toujours des solutions. Et ça, pour moi, le meilleur remède pour ça, c'est l'écriture. D'avoir son bloc-notes et quand tu cogites le soir avant de te coucher, de noter en fait tous les trucs qui te posent problème, parce que souvent on cogite parce qu'on a peur d'oublier la bonne idée ou le questionnement qu'on a la veille. On a peur en fait de l'oublier le lendemain et que du coup, bah voilà, c'est une bonne idée ou il faut pas que j'oublie de faire ça, etc. Et juste de noter, ça permet de déléguer en fait sa mémoire sur un morceau de papier et de se coucher plus serein, quoi.
D'accord. Donc, pour finir, alors, je prends du magnésium, je prends donc 1 gramme de créatine à chaque. Alors, j'en mets 2 dans mon shaker vu que je déjeune pas. Je continue. Alors, c'est ça le problème, si on peut appeler ça un problème, mais je ne déjeune pas et je fais ça depuis fin novembre début novembre. Enfin, j'ai pas les dates en tête. Mais en fait, je n'ai pas ressenti du tout de fatigue depuis que j'ai changé mon alimentation. Et c'est là où c'est complètement dingue et où j'ai vu le regard des gens changer à la salle, parce que les coachs me disaient mais comment tu manges et tout ça. Mais quand je leur disais que je déjeunais pas, je pense qu'ils pensaient que je me piquais ou des choses comme ça. Hein. J'ai vu dans leur regard qu'ils ne me croyaient pas dans ce que je disais, parce que j'ai augmenté mes pertes. C'est-à-dire qu'au développé couché, j'étais à 90 kilos, j'arrivais pas à les dépasser, j'en faisais 8. Et là, maintenant, je suis capable de faire 4 reps à 115 kilos.
D'accord.
Et tout ça en perdant, en déjeunant plus le matin, en ayant changé complètement mon alimentation. Et j'ai une forme de dingue. On va dire que j'ai juste ressenti un gros coup de mou. Là, il y a 15 jours de ça où c'est que vraiment j'étais hyper fatigué, pas très très bien, mais on va dire que j'ai changé mes entraînements. J'ai stoppé le lourd et je suis passé sur de la tonification où c'est que je fais beaucoup plus de reps, où c'est que je fais. Et c'est là où c'est qu'en fait j'ai trouvé un changement. Sinon, sur du lourd, c'était incroyable, quoi. C'est incroyable.
Eh ben, je vais rassurer les gens là, parce que certainement ils vont se dire ah mais voilà, il est fatigué au bout d'un moment, etc. Mais est-ce que avant, c'est-à-dire quand tu étais en surpoids et que tu faisais pas attention, il t'arrivait dans l'année d'être fatigué comme ça?
J'étais tout le temps fatigué. Je t'avais appelé pour ça d'ailleurs. Je t'avais appelé pour ça. J'étais hyper flatté.
J'avais envie que tu le dises, parce que là les gens ils vont dire bah ça y est, voilà, il a fait ça, il est fatigué. Mais en fait, tout le monde, quelle que soit l'alimentation, etc. On passe tous par des périodes de fatigue. Les causes sont pas les mêmes. Là, avant, il était tout le temps fatigué parce que ton hygiène de vie était entre guillemets pas terrible, médiocre, on va dire. Aujourd'hui, elle est bonne, mais t'as subi de la fatigue parce que t'es resté peut-être trop longtemps sur un entraînement trop taxant nerveusement. Et du coup, au bout d'un moment, ton corps t'a dit nerveusement, lève le pied, on va faire un petit peu des entraînements autrement, quoi.
Non, j'ai ressenti un gros coup de fatigue quand j'ai changé mes entraînements. Je suis passé sur des entraînements avec 20 répétitions, hypertonique, à essayer d'aller le plus vite possible, parce que j'ai un coach qui m'a proposé, en fait, ça c'est pareil, hein, à la salle, on se dit bonjour, mais là, depuis que j'ai changé, j'ai tout le monde qui vient me demander des conseils, j'ai les coachs qui viennent même se plaindre en me disant qu'ils n'arrivent pas à manger, nani nana, qui sont, voilà, donc c'est quand même un peu hallucinant. Moi, je me dis, mais c'est complètement hallucinant, parce que moi, j'ai aucun conseil à donner, j'ai tellement galéré, et puis de toute façon, je n'ai même pas encore atteint mon objectif, où c'est que, ben voilà, donc je suis encore
de toute façon, ouais. Non, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que contrairement à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que toi, la forme d'entraînement qu'on t'a proposée ne te convenait pas, quoi.
Alors, je pense que simplement, là, le fait de m'entraîner différemment, je recrute d'autres fibres et que j'avais pas du tout l'habitude. Donc, c'est vachement cardio, c'est totalement différent. Donc, le temps de m'adapter, je pense. Ouais, voilà, avec un repos plus court, 1 minute, hein, exactement. C'est quand même assez intensif. Donc, je pense que les sensations que j'ai eues, c'était un petit peu comme quand je démarrais la muscu, mes premières séances, au tout début, en fait, finalement. Je m'étais vraiment habitué au lourd, parce que j'ai fait que du lourd tout le temps. Et c'est pour ça aussi que ce qui m'a fait changer aussi, c'était les blessures, hein, blessure sur blessure sur blessure. Mmh. Et j'ai ce fameux petit coach là qui est en train de passer un diplôme pour être préparateur physique, mais lui il veut être dans le privé. Enfin, il veut pas préparer les personnes lambda. Hein, il veut aider les gens qui ont été accidentés, tout ça. Enfin bon. Et du coup, il a vraiment pris en considération le fait que je me blesse tout le temps. Il m'a fait faire de l'imagerie, donc essayer d'imaginer, enfin de faire le mouvement convenablement avec des temps. Et en fait, travaille la mobilité de mes épaules parce qu'en fait, il a pris mes mensurations et sur les mensurations du type morphologie parfaite d'une personne qui ferait de la compétition, en fait, je suis au-dessus au niveau des épaules.
D'accord.
Au niveau des bras, je suis à 2 cm en dessous. Et au niveau du dos, on va dire que vu qu'on prend au niveau du torse et le dos, en fait, je suis un peu en dessous parce que les pecs, c'est un gros point faible. En fait, c'est pas que c'est un point faible, c'est que tous mes exercices,
ouais, tu les as bien rattrapés quand même. Hein.
Ouais, mais en fait,
j'ai les poteaux sous les yeux, tu les as quand même. T'as quand même. Alors, t'as pas des pecs ronds, globuleux, etc. Mais oui. On va dire que t'as du haut de pec, t'as du bas. Enfin, tes pecs sont complets.
Oui, alors ça, c'est grâce à ce changement d'entraînement, hein, en faisant du léger, quoi. Je fais du 60%, en fait. 60, une semaine,
mais
80%.
Mais t'arrives mieux à recruter tes muscles, quoi. Enfin, t'arrives mieux à ressentir tes pecs.
Eh bien exactement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous mes exercices de haut du buste, c'est-à-dire que je vais recruter les épaules, en fait, à un moment donné, en faisant que du lourd. Oui. Et le problème, c'était ça. Et du coup, maintenant, je suis en train de réapprendre, en fait. Dans ma tête, je me suis dit, c'est comme si je savais plus rien faire. Toutes les années précédentes que j'ai passées, j'oublie tout. Et je me remets à zéro, quoi. Et ça fonctionne parce qu'il faut pas avoir peur de revenir en arrière de temps en temps, quoi. Je pense.
Ah ben, il faut surtout pas avoir peur d'être créatif, de tester des nouvelles choses à l'entraînement, parce que dans tous les cas, de faire la même forme d'entraînement, tu vois, tu parlais du lourd, mais moi j'ai fait du lourd pendant des années, des années, des années. Au bout d'un moment, ça m'a gonflé. C'est pas que le lourd n'était plus intense, mais c'est que à intensité égale, vu que j'avais moins de motivation. Parce que ça faisait trop longtemps que j'en faisais, ben, ça devenait plus difficile pour moi. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer d'autres formes d'entraînement. Enfin, moi, après, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai trouvé mon équilibre. Je fais du lourd, puis après, je fais quelques semaines où je vais faire un petit peu ce que tu fais là en ce moment, des temps de repos plus courts, etc. Je vais me concentrer sur autre chose pour revenir. J'ai besoin de ça pour rester en permanence, si tu veux, dans une bonne... En fait, en permanence, avoir envie de m'entraîner, parce qu'on a vite fait de se laisser emporter à se dire bon bah il y a que le lourd qui donne du muscle parce que voilà
oui.
Il faut de la tension sur l'étirement, de la tension sur la contraction, donc ça on peut l'avoir qu'avec du lourd. Donc tu vois, à rester dans ce schéma là et du coup tu vois de pas être ouvert d'esprit. Mais bon,
il y a l'ego aussi, hein. Il y a vraiment ce problème, je
m'entraîne dans une salle où il y a personne. Moi je vais à 15h30, je suis avec papy mamie, je peux te garantir que là si tu veux tester ton niveau de motivation, tu vas dans des salles comme ça où il y a vraiment personne et enfin bon. Et du coup, moi, l'ego, je m'en fous maintenant. Enfin, je suis passé outre ça. C'est plus, moi, ce que je veux, c'est pas perdre de force, quoi. Tu vois, essayer de conserver la force parce que je sais qu'elle est quand même liée, à ma masse musculaire. Si je perds de la force, mes entraînements vont être moins lourds. S'ils sont moins lourds, ben, j'arriverai moins à conserver, la masse musculaire acquise, quoi.
Ben moi je suis en plein dedans là, je suis en plein dedans. En fait, je viens de réaliser qu'en fait, je n'arrivais pas à faire autre chose que du lourd parce que j'avais peur. Pour des mes connaissances, hein, mais peur de perdre de la force, peur de me dire mais parce qu'inconsciemment on fait du lourd, donc il y a cet ego qui rentre en jeu, on veut pas lâcher ses perfs. Mmh. Et puis finalement j'ai réussi. Alors ça a été très très dur, hein, parce que moi j'ai une faculté en fait de me remettre en question, peut-être un petit peu trop parfois, mais ça m'a vraiment permis de me regarder, de me dire mais putain, mais en fait j'ai fait un blocage, quoi. Et je pense que après ça me concerne, hein, mais je pense que y a beaucoup de personnes qui doivent faire des blocages comme ça psychologiques, un petit peu se dire ah ben je suis faible déjà, mais puis ils poussent pas, ils vont pas chercher plus loin, ou je suis faible de ça et puis je vais pas chercher ça, des blocages un peu, un genre de conditionnement quelque part.
Et, ouais, je comprends, ouais. Ouais, et puis ils cherchent pas forcément ils attendent un miracle sans changer leurs habitudes, quoi.
Oui, parce que moi je le vois, hein, des jeunes là qui viennent à la salle, qui viennent me demander des conseils et tout, j'arrive à analyser ce qu'ils me disent. Après, moi, j'ai pas envie de leur donner de conseils parce que j'ai tellement pris conscience qu'en fait ça c'est propre à chacun et que c'est compliqué. Et puis même, enfin, moi, je veux dire, moi je galère, donc pourquoi je vais aller donner un conseil? Les seuls conseils que je donne, c'est finalement d'essayer de, si ça marche pas, de changer ce que tu dis toi d'ailleurs, mais ça fonctionne quoi. Ça sert à rien de s'attarder sur quelque chose. Ça fait des mois et des mois qu'on le fait et que ça fonctionne pas. Il y a pas de résultat, faut changer. Moi je le vois là, je fais du léger, boum, j'ai tout qui change quoi finalement. Les dessins de mes muscles, tout quoi.
Ça peut s'expliquer par diverses choses. Je vais te donner mon ressenti par rapport à l'entraînement. Alors quand tu dis léger, c'est du léger pour toi, mais certainement c'est des maxi pour d'autres, hein, parce que vu que t'as entraîné toujours pendant des années, enfin bon voilà, je préfère parce que s'il y a des débutants qui nous écoutent, ils vont se dire attends, je vais m'entraîner léger. Non, ton léger aujourd'hui est plus que des maxi pour beaucoup de personnes. Donc ça, juste il faut le préciser. Ensuite,
mon léger ça va être 60% de mon max, et après, je fais une semaine 80% de mon max. Voilà.
Ouais, donc ton léger au coucher, c'est quoi? 70-80 kilos, quoi.
Ouais, à peu près, ouais. Oui.
Ouais, voilà. Donc, déjà, il faut y arriver à 70-80 kilos au coucher. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, ils y sont pas encore, tu vois.
Donc, je fais 20 reps à 70 et c'est dur, hein. Franchement, c'est plus dur. Je suis plus à l'aise sur du lourd que sur du léger.
Enfin, c'est normal. Ça, c'est normal. Ton endurance, etc. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout habitué. Et puis des fois, je sais pas si t'as remarqué, mais on a plus de facilité à pousser, même sur 5-6 répétitions, on a plus de facilité à pousser une barre à 100 kilos qu'une barre à 50. Parce qu'en fait, ce côté trop léger, ça crée une forme d'inertie, en fait, tu vois. Quand tu pousses fort, on a tendance à pousser rapidement. Donc, du coup, faut un peu retenir la barre, même quand tu la pousses, parce que sinon, elle monte trop vite. Et puis, du coup, le mouvement, il est pas, tu vois, fluide comme il faut, quoi. En fait, la lourdeur de la barre fait qu'on est bien gainé et tout. Et je sais pas, c'est un ressenti que j'ai aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que la piste de progression que tu peux avoir avec cet entraînement actuel, c'est pas forcément que c'est le léger ou cette technique-là. C'est moi, je pense qu'il y a ce premier point qui est que tu recrutes mieux certaines zones musculaires que tu n'arrivais pas à recruter avant, en fait. Parce que
oui, je sais pas
si tu as lu un peu si tu as lu les méthodes de la vie, etc. Mais en fonction de certains mouvements, plus le poids est lourd, plus le centre de gravité change. Et donc, du coup, tu ne recrutes pas les mêmes zones musculaires. Donc, peut-être que par un poids plus léger, tu recrutes d'autres zones musculaires que tu n'arrivais pas à recruter. Mais il y a autre chose. C'est que moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas sur moi, c'est que quand je fais une session pendant quelques mois ou quelques semaines de très, très lourd, si je m'accorde 15 jours d'entraînement comme tu fais en ce moment, plus léger, plus en rep longue, ce qui se passe, c'est pas vraiment l'entraînement qui me donne plus de muscles, c'est que mes muscles ont pleinement le temps de récupérer sur d'autres facteurs, en fait. Et c'est là, la récupération est meilleure, parce que tout mon système nerveux peut bien récupérer, mais peut-être que mes récepteurs récupèrent mieux aussi. Et la progression souvent se fait à ce moment-là, c'est-à-dire que je vais m'entraîner lourd pendant quelques mois, je vois pas réellement une progression, si tu veux, en termes d'esthétique, et boum, je passe sur du léger ou du 20 reps, et en fait, j'ai l'impression que mon corps récupère de tous ces mois lourds. Et après, au bout d'un moment, ça change plus, et boum, je repars sur du lourd. Et moi, je vois plus cette période de léger comme une période de récupération active, plus que de progression réelle, si tu veux. C'est la progression résulte, en fait, des mois précédents.
Oui, et puis je suis sur une tonification. À la suite de tes conseils aussi, tu m'as dit faut tonifier. Donc moi je me suis dit ben oui, effectivement, faut que je tonifie. Donc je suis parti sur ça aussi. Donc
il y a ce côté, c'est vrai que quand tu matraques une zone, tu as plus de chances de la rendre tonique que si tu fais du 3 reps, quoi. Si tu matraques une zone, par exemple, je prends le cas des abdominaux, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir une sangle bien découpée si tu les travailles régulièrement, alors en lourd, en léger, en série longue, etc., mais qu'il y a une fréquence élevée. Si t'attends, comme certains disent, de faire uniquement des squats et des soulevés de terre pour avoir des abdos. Ou alors, pareil pour les épaules, si tu veux bien détacher tous les faisceaux, t'as tout intérêt à taper de la série longue sur chaque faisceau. Après, ça, c'est pareil, ce sont des choses que c'est vraiment de l'expérience de terrain. Après, hein, y a des gens qui te diront qu'un muscle, c'est un muscle, la seule différence, c'est le taux de gras. Enfin bon, moi, je trouve qu'il y a quand même des petites différences en fonction des groupes musculaires, si on veut vraiment les rendre bien bien globuleux, bien dessinés. Alors ça fait peut-être un petit peu un petit peu vaudou, mais les séries longues, par exemple, de très très longues sur les épaules, moi, chez moi, ça a bien fonctionné. Alors que j'ai pu taper pendant longtemps de la série courte, ça marchait pas pour avoir cette définition. Et je pense que ça c'est lié à ce côté recrutement, en fait. L'avantage du recrutement sur du léger. On arrive à recruter sur du léger ce qu'on ne recrute pas avec du lourd. Et donc, du coup, peut-être que la tonicité passe par là aussi, quoi.
Oui, complètement. Et puis moi, au niveau des abdos, c'est hallucinant, mais je les ai fait pendant des années et puis j'arrivais pas à les avoir. Et là ils poussent. c'est dingue parce que finalement, je me dis, mais mince.
Vas-y, y a pas de souci. Hein. Excuse-moi, je suis là.
Excuse-moi, la poste qui s'est énervée sur ma sonnette pour en recommander, ça arrive jamais, mais voilà.
Il n'y a pas de souci. Ouais, donc
il fallait que ça arrive là.
Il n'y a pas de souci, t'inquiète. De toute façon, je ferai. Enfin, j'ai coupé. Les auditeurs n'ont pas entendu la longue pause. J'ai eu le temps d'étendre une lessive, etc. Non, je plaisante. Enfin bon, bref. on en revient donc du coup un petit peu à ta progression, etc. Donc aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que tu fais comme, je veux dire, c'est quoi ton approche alimentaire idéale pour toi?
Mon approche idéale alimentaire, c'est de manger. En fait, je fais mon entraînement, je prends mon shaker avec la moitié d'une banane de suite après, et après j'attends 45 minutes, je mange ma gamelle, enfin mon repas, pardon. Après, je reprends un shaker à 18h parce que je mange pas avant 20h30, 21h. Mon alimentation idéale, c'est ça. Et ça fait plusieurs semaines que je fais ça. Je suis allé voir une nutritionniste il y a 2 semaines. On a tout épluché. Elle m'a dit que il y avait rien à revoir, quoi. Enfin, mon alimentation est impeccable, quoi. Enfin, impeccable. Rien n'est impeccable, mais ça me correspond. Ça me va comme ça.
Et quel est son, d'ailleurs, donc nutritionniste, médecin, nutritionniste, c'est pas diététicien?
Non, nutritionniste, elle est, Léa Roussel, elle s'appelle. C'est une fille qui a fait les Jeux Olympiques, qui est médaillée.
D'accord. Donc oui, c'est pour ça que je posais la question parce que c'est quand même étrange. Enfin, ça me surprenait que ce soit un nutritionniste classique. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui a un pied dans le sport, quoi.
Ah oui, complètement. Elle a fait les JO. Elle a fait ce qui est de la gym acrobatique.
D'accord.
On peut la trouver hein, sur YouTube. Moi, quand on m'avait conseillé, je suis allé voir d'abord. Je me suis dit, attends, je vais quand même aller voir qui c'est cette personne. Si elle a fait du sport, je veux quand même me renseigner, voir. Et puis bon, mais effectivement, on peut la voir. Donc après, elle est coach aussi. Donc elle m'a expliqué certaines choses que je faisais pour les abdos qui me créaient des douleurs sur les lombaires. Donc là, j'ai changé. J'ai changé. Effectivement, je trouve que j'ai beaucoup plus de résultats comme ça.
Ouais.
Donc après, pour revenir à mon alimentation, quand je l'ai eu au téléphone, que je lui ai expliqué brièvement en fait comment je procédais, elle m'a dit c'est quand même un peu bizarre. Et une fois qu'après on a fait l'entretien, je lui ai expliqué et elle m'a dit non mais c'est bon, on ne change rien quoi. Parce que bon. J'ai ce fonctionnement là, mais je voulais quand même être sûr. Je me suis dit je vais quand même aller voir un professionnel pour quand même être sûr de ce que je fais, parce que j'ai pas une me connaît une carence un jour ou quoi. Et,
ça c'est les carences, etc. Le souci c'est que c'est quand même assez difficile par l'alimentation de pas avoir de carence. Mais en plus si tu rajoutes une charge physique assez élevée, donc le fait d'avoir des boulots physiques plus les entraînements, t'augmente le risque de carence. Alors pas forcément des carences en protéines ou quoi, mais plutôt des carences en micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, etc. Après voilà, là c'est y a des gens qui vont prendre des compléments alimentaires, d'autres qui vont pas y croire. Bon, moi je quand même, quand on est sportif sérieux, qu'on est un petit peu, on mange sur le fil du rasoir et tout pour rester en forme, il y a certains compléments alimentaires qui peuvent être intéressants quoi.
Alors ça aussi hein, c'est pareil. Moi pour moi c'est fait. on va l'appeler, on peut l'appeler une sèche, mais ça c'est pareil. À la salle, on me disait mais putain, t'as sèche, tout ça. Je fais non, mais pour moi c'est pas une sèche, hein, parce que je n'ai pas ressenti de manque, je n'ai pas ressenti de ça n'a pas été compliqué du tout pour moi cette fois-ci, hein, de perdre du poids. Ça a été compliqué au début quand je t'ai contacté au mois d'octobre, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que visuellement, ça changeait, mais je perdais pas de poids. Tu te rappelles, je t'avais envoyé un mail, j'étais complètement perturbé par ça, parce que un peu focalisé sur la balance, j'étais là, mais mince, je me pesais tous les matins au lever, pas le poids il baisse pas, mais le visuel commençait à changer, je comprenais pas, je me suis dit, mais mince, c'est pas possible. Et puis en insistant, en continuant comme ça, en gardant ma ligne de conduite, et ben finalement ça a payé, ça porte ses fruits. Et là, et j'ai pas eu l'impression de faire de régime ou de diète ou enfin je sais pas comment on peut l'appeler. Mais
ouais,
pour
ouais,
moi,
t'as pas été frustré, t'en as pas souffert psychologiquement,
du
etc. Et est-ce que tu penses que le style alimentaire que tu as aujourd'hui, alors pas forcément celui qui t'a conduit à être très sec, enfin à être très sec, à être en forme, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le style de vie que tu as est celui que tu pourrais maintenir toute une vie au niveau alimentation?
Alors, c'est... Oui, c'est pour ça que je suis allé voir une nutritionniste pour confirmer ça, parce que je me sens bien comme ça, et je suis en forme comme ça et je suis heureux comme ça.
D'accord.
C'est
bon, bah, écoute,
ouais.
Non, mais c'est alors tout à l'heure. J'ai envie d'en parler dans ce podcast parce que en fait, il y a un truc l'autre jour qui m'a frappé l'esprit. Tu sais, moi, je lis beaucoup de bouquins sur la nutrition, etc. Parce que bon, voilà, tu le sais, je suis passionné et que c'est mon boulot aussi. Donc, et je lis beaucoup et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque début de bouquin, de conférence, d'émission, de tous ces trucs-là sur la nutrition, on dit toujours, avant de démarrer, aller voir un médecin. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais je suis d'accord avec ça, tu vois. C'est-à-dire que tu vas enclencher dans ton mode de vie quelque chose de nouveau. Donc, allez voir votre médecin. Alors, les gens ont... J'ai un bouquin sur les meilleures recettes de la diète méditerranéenne. Un super bouquin avec des recettes, parce que moi, enfin bon, j'aime bien manger méditerranéen, c'est mon truc. Mais et au début, il y a encore des trucs avec aller voir votre médecin. Est-ce que tu penses pas, et là, je te pose la question, que... Il faudrait faire une loi pour imposer à tous les publicitaires de Nutella et tout, avant leur pub, de dire, avant de manger notre peau, allez voir votre médecin. Est-ce que tu penses que c'est pas plus grave de bouffer des trucs sucrés et tout ça? Et pourtant, il n'y a pas de message, si tu veux, clairement. Si, il y a le petit truc en bas, n'oubliez pas de manger, bouger. Mais je veux dire, est-ce que tu te rends compte, toi, je sais pas, enfin, moi, personnellement, ça me choque. À quel point les gens sont frileux de recommander de manger plus de légumes, etc. Mais par contre, n'ont aucun problème à faire ça. Moi, je sais pas, mais admettons, je suis nutritionniste ou médecin ou je sais pas trop quoi. J'ai un patient en face de moi qui arrive. Enfin, je veux dire, à aucun moment, si on démarre un régime, par exemple sans glucides, la personne veut perdre du poids, elle évite un peu les glucides. Bon, c'est son choix. Et que le médecin lui dit, non, mais c'est dangereux, faut pas faire ça. Est-ce qu'à un moment donné, il va lui dire, non, mais vous avez quoi dans vos placards? Est-ce que vous avez du Nutella? Est-ce que vous avez, alors je dis Nutella, mais je vais dire pâte à tartiner parce que je vais pas, sinon je vais avoir des problèmes. Mais on va dire, voilà, tous ces trucs trop sucrés et tout ça. Et je trouve qu'il y a un déséquilibre, en fait, moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraiment nocives et qui sont, finalement, personne ne dit, qu'est-ce que vous avez dans vos placards de ce côté-là. Et d'un autre côté, quand les gens veulent faire un petit peu attention, il y a tellement de mise en garde que les gens commencent à avoir peur de bien manger, en fait.
Ben, ça va plus loin que ça. Enfin, moi, le constat, parce que c'est ce genre de questions, je me les pose, c'est quand je dis que j'ai besoin de tout comprendre, c'est que ça va jusque là, c'est que j'observe autour de moi et j'ai besoin de comprendre. Alors après, voilà, c'est avec moi mon regard. Je suis pas psy, je suis pas tout ça, hein, mais c'est des choses qui m'intéressent aussi. Et si on observe un petit peu les gens quand je vais dans les magasins ou quoi avec ma compagne, je dis mais regarde, il y a 9 personnes sur 10 qui sont pas grosses ou qui ont du bide et qui sont parce que en fait on propose, je vois moi la salle de sport, ils proposent des KitKat, ils proposent des trucs là au distributeur, je comprends même pas que dans une salle de sport il y ait ça déjà. Tu regardes les pubs, c'est pareil, t'as une merde toutes les 5 minutes, on te propose une merde de ce style-là toutes les 5 minutes, que ce soit KitKat, que ce soit machin, que ce soit maintenant les McDo qui s'y met à fond. Et comme on est dans une vie en fait où c'est que tout va à 100 à l'heure et de consommation, forcément, eh ben, ça tourne que comme ça. Moi, les gens, quand je leur dis comment je mange, ils me disent mais t'as le temps de te préparer tout ça ? Ben oui, j'ai le temps de me préparer tout ça. Et je pense que les gens se reposent derrière ça, c'est-à-dire derrière le fait de ne pas avoir le temps. Et donc, du coup, ils se donnent raison en disant bon, mais tiens, on va manger ça. Et puis il y a cette addiction au sucre qui est quand même, c'est un truc de fou, ça. Hein. C'est pire que tout. Ouais, hein. Mais... j'ai vraiment l'impression que c'est pire que tout.
C'est pour ça.
Parce que.
Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Excuse-moi.
Ben j'ai envie d'avoir cette honnêteté là, c'est-à-dire que moi je reviens de très loin, j'ai un passif avec de la drogue dure aussi. Pendant des années hein, quand j'avais 20 ans et en fait j'étais hyper maigre quoi et du jour où j'ai arrêté ça, je pense que j'ai flingué mon métabolisme sur le coup et du coup c'est là que j'ai commencé à grossir, c'est pour ça que je suis arrivé à 85 kilos. Et j'ai réussi à me sortir de toutes ces addictions là. Donc je pense que quelque part il faut quand même avoir un mental derrière où c'est qu'on a envie de changer parce que les gens se cachent derrière plein de prétextes finalement. Ce qu'il faut arriver à, c'est de se dire bon mais voilà je suis faible, j'ai été faible pour ça mais je peux changer. Il faut avoir envie de changer. S'il n'y a pas cette envie là, personne ne pourra changer. On peut pas le faire à la place des autres quoi.
Ça c'est sûr qu'il y a de ça. Moi, après, ce que je reproche un peu, c'est qu'il y a des gens qui mettent des obstacles par rapport au changement, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les messages, tu sais, un petit peu d'alerte devant des trucs qui sont probablement beaucoup plus saines que des choses qu'on a couramment en accès libre sans précaution, etc. Ça me pose un petit peu problème parce qu'une personne qui veut enclencher un régime, une personne qui veut enclencher un régime et que elle reçoit, ah là là, tu vas être fatigué, tu vas faire des hypoglycémies, c'est pas bon pour ton cœur, c'est pas bon pour ton machin. Moi, je reviens encore sur le cas du fast-food ou de la pâte à tartiner. Je suis désolé, mais avant d'y aller, on devrait avoir un message avec marqué « Avant de savoir si vous pouvez bouffer cette merde, allez voir votre médecin pour savoir si vous avez pas un prédiabète ou vous avez pas trop de gras viscéral. » Ou tu vois, enfin, ça me paraît. Là, c'est cohérent. Voilà.
Il le détourne le truc parce qu'ils mettent.
Ça veut rien dire. Alors pourquoi ceux qui écrivent des bouquins sur la nutrition, ils auraient pas juste à marquer manger, bouger, 5 légumes, machin. En fait, je sais pas. Je trouve qu'il y a une incohérence et il y a comment on appelle ça déjà. J'arrive pas à trouver le bon mot, mais j'ai peur de pas bien me faire comprendre pour les auditeurs. J'espère qu'ils verront pas là un combat contre les médecins ou je sais pas trop quoi, parce que c'est pas du tout le cas. C'est juste en fait contre le système, la vision que peuvent avoir en fait tous ceux qui regardent un petit peu la sphère alimentation. Je trouve que c'est complètement biaisé en fait. On donne du crédit, on enlève en fait de l'importance, etc. à des choses qui sont entre guillemets beaucoup plus graves que d'autres. Et les choses saines, on a des barrières, on a beaucoup de barrières à manger sainement, que ça soit en termes socialement. Tout ce qui va être également la mise à disposition, etc. On a énormément de barrières, ça coûte plus cher. Pour manger local, c'est plus compliqué. Au niveau de nos amis et de notre famille, personne ne nous comprend, enfin au début. Hein. Il faut vraiment attendre d'avoir des bons résultats pour inspirer les autres, pour à partir de là, ils vont commencer à nous comprendre. Et là, ça va commencer à se faire. Mais le chemin au début, les premiers mois de transformation, on est seul face à nous-mêmes. Quoi. Personne ne nous soutient, sauf peut-être nos proches très très proches. Mais sinon, on est un peu livré à nous-mêmes, quoi.
C'est hyper dur.
C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'y arrivent pas, parce qu'on n'encourage pas ça. C'est mon truc, quoi, mais bon.
Moi, t'as vu mon physique que j'avais au départ. On me disait, ce que j'ai tout le temps entendu, c'est que oui, mais t'es carré, t'as un physique comme ça.
Cette famille, c'est ta génétique.
T'as des gros os, c'est ton physique qui est comme ça. Et au fond de moi, deux trois fois j'ai lâché, hein. Deux trois fois j'ai réussi à le croire, à me dire bon mais je suis comme ça, mais je vais continuer, je vais être massif. Voilà, t'es massif. Voilà ce qu'on me disait tout le temps, t'es massif, t'es quelqu'un de massif et voilà. Et là quand tu regardes maintenant, je fais 71,6 kg pour 1m70.
Ouais. Bah ouais, mais bon en tout cas je préfère être comme t'es maintenant que comme t'étais avant.
Ben complètement, je suis plus essoufflé, je suis en forme, le psychologique ça n'a plus rien à voir parce que ça va avec aussi. Là j'ai revu des amis que j'avais pas vus depuis ça fait au moins 3 mois. Ils étaient au courant un petit peu de mon mal-être par rapport, parce que cet été je voulais pas me mettre j'allais au lac mais je voulais pas me sortir le t-shirt, j'étais hyper complexé. Et là je suis arrivé chez eux, je me suis fait mal à la jambe, j'avais une grosse blessure. Et je leur ai montré, d'habitude jamais t'aurais fait ça, jamais t'aurais levé ton t-shirt. Putain, le sourire, c'est complètement différent. Et je pense que ça donne confiance aussi en soi. J'ai retrouvé une autre confiance. Et voilà, tout ce qui va autour, c'est hyper positif finalement. Donc j'avais plusieurs questions par rapport à ça parce que je sais pas si toi ça te l'a fait, mais moi j'ai la peur de regrossir quoi. Malgré comment je mange, tu vois. J'ai peur de revenir comme j'étais avant, ça me fait gaver flipper, parce que je n'ai vraiment pas envie d'être comme ça. J'ai quand même 35 ans et je me dis, 35 ans, la photo que je t'ai envoyée quand je faisais 83 kilos.
Pourquoi t'as peur de regrossir? La bonne question, c'est ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu es prêt, si ce que tu fais aujourd'hui n'est pas désagréable, si tu penses pouvoir t'entraîner encore un certain nombre de temps, enfin, je veux dire jusqu'à 70, 80 ans peut-être, si tu penses que tu as envie de ça, quoi. Alors, pas forcément du très lourd, du machin, tout ça, mais je veux dire, est-ce que tu penses que la musculation est quelque chose de ponctuel ou de long terme? Donc, si la réponse est long terme, déjà, t'as pas trop à t'en inquiéter. Après, c'est pareil. À partir du moment où tu ne recommences pas à faire ce que tu faisais avant, tu vas pas regrossir. Admettons, tu vois, là, quand tu commences à être vraiment sec, là, physiquement, si tu te dis, bon, ben, j'ai envie de manger plus de riz basmati ou quoi, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Parce que avant, si tu veux, tu perdais pas de gras parce que tu mangeais en permanence. Donc, ce qui rentrait, soit t'en stockais un peu, soit tu le brûlais, mais je veux dire, il y avait une forme d'équilibre, c'est-à-dire que ce que tu mangeais avant te maintenait en surpoids. Maintenant que t'as perdu ton poids, ce que tu manges, tu vas continuer à l'utiliser plus ou moins en circuit fermé. Tu vois ce que je veux dire, si tu restes sain. Donc, tu vas conserver le poids que t'as aujourd'hui en mangeant plus ou moins à ta faim. En fait, le plus compliqué, c'est de perdre, parce que perdre, il faut se mettre en restriction. Donc là, c'est sûr que je dis, j'ai pas envie de manger comme ça toute ma vie, mais de toute façon, personne ne dira qu'il faut manger en restriction toute sa vie. La restriction calorique, c'est ponctuel. Quand t'as envie de serrer un petit peu la vis, bon ben, là, mes abdos se sont un petit peu voilés, tu serres la vis, tu réduis un petit peu ta diète, pendant quelques semaines peut-être, hop, tu vas mieux, tu reviens. En fait, c'est un équilibre. Beaucoup de personnes cherchent le moyen long terme, tu sais, le truc où t'as plus besoin de t'en soucier, mais ça n'existe pas. En fait, les bonnes habitudes existent, de choisir les bons aliments, tu vois, les bons réflexes, pas trop de pesticides, du bio de préférence, etc., etc. Donc ça, ces réflexes, ok. Mais par contre, après, au niveau des apports, t'auras toujours des moments où tu ressentiras que t'auras besoin de plus manger parce que t'as plus faim, psychologiquement, il y a plus de demandes, sportivement, t'es un peu au taquet, etc. Et puis après, des moments où tu vas te dire, bon, ben là, c'est bon, je sens que je me suis légèrement voilé. Alors, ça veut pas dire que t'as pris du gras, mais tu sens que tes abdos, ils sont un peu moins serrés qu'avant. Bon, ben, tu vas réduire un petit peu. Et ça, en fait, c'est le long terme. C'est toujours osciller. C'est ce que j'appelle le fil du rasoir. Le fil du rasoir, ça, c'est en fait, t'es permanent sur un équilibre. Donc, la peur de regrossir, c'est quelque chose, si tu veux, aujourd'hui, tu sais tellement comment faire parce que tu as réussi, tu as trouvé tes propres clés, que cette peur ne devrait même pas exister. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu as les outils. Quoi qu'il se passe, même si demain, je te dis, tiens, je te file 30 kilos de gras autour du bide, ça ne devrait pas t'angoisser parce que tu as les clés. Juste, ça prend du temps. Mais tu as les clés, tu as les outils. Tu n'es plus dans l'ignorance. Normalement, la peur, c'est quand tu n'as pas la maîtrise de l'outil. Tu ne sais pas comment faire, etc. Toi, tu as déjà vécu le chemin. Donc, quelque part, après, le rester, il suffit juste de rester en forme, c'est-à-dire de conserver un rythme de vie actif, etc. Mais je vais te dire, toi, même si tu faisais pas de muscu, avec l'alimentation que tu as, saine comme ça, plus ton job physique, là, tes activités physiques, tu prendrais pas de poids parce que tu te dépenses beaucoup dans la journée. Tu prendrais du poids réellement si tu arrêtes le sport. Et que tu te dis, j'en ai marre, la muscu sert à rien, enfin, je sais pas, des fois, on pète un plomb, tu te remets à manger n'importe quoi. Mais ça, les seules personnes à qui c'est arrivé, c'est ceux qui ont fait, par exemple, des compétitions et qui ont fait vraiment des régimes hardcore. Tous ceux qui ont fait des régimes vraiment de sèche très, très, très poussés pour les compètes, les dernières semaines, voire les derniers jours, ils commencent à avoir des questions un peu existentielles. Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Tu vois? Mais ça, en fait, c'est des questionnements quand tu es complètement à plat au niveau cérébral. C'est-à-dire que ta résistance, elle est à zéro. Tu n'as plus de volonté. Mais c'est un creux de vague, quoi.
Ouais.
Et ça, quand tu essayes de rester en forme, tu le vis pas. Enfin, je veux dire, si tu vas pas chercher dans l'extrême ce genre d'épuisement psychologique, tu le ressens pas.
Ben moi, je l'ai pas ressenti. Et en plus, j'ai suivi un petit peu ton chemin quelque part parce que, comme je te disais au départ, je perdais du poids, mais enfin, je perdais pas de poids, mais visuellement, ça changeait. Et là, je suis tombé sur un de tes contenus qui expliquait que tu avais stoppé les glucides.
Ouais.
Chose que j'ai fait, qui d'ailleurs, j'ai recommence à peine là, de temps en temps, à peut-être manger du riz, mais sinon, ça fait depuis novembre en fait que j'ai stoppé complètement les glucides. Enfin, les seuls glucides que j'avais, c'est ce que je pouvais trouver dans les carottes. J'avais même stoppé les légumineuses.
D'accord.
Et pas de fatigue, rien. Au contraire, au contraire.
T'avais des bottes, t'avais des graisses?
Alors par contre, j'ai augmenté les graisses, ouais. Graisse de coco, alors ça, la graisse de coco, ça faisait longtemps que je l'utilisais. L'huile d'olive, alors pareil, hein, je suis que sur du bio aussi. Hein. Mon vinaigre, alors du vinaigre de cidre, j'utilise, pas de vinaigre balsamique. Mm-hmm. Parce que, en bio, je prends aussi, j'utilise aussi de l'huile de colza. Huile de pépins de raisin, voilà, des choses comme ça, des œufs.
Mais oui, de toute façon, les gens comprendront comme ça, mais c'était pas réellement une diète cétogène parce que t'avais quand même des protéines et des légumes. La diète cétogène, oui. C'est vraiment purement beaucoup de graisse et on choisit des légumes à très faible teneur en glucides et des protéines très modérées. Quand on fait du sport, la diète cétogène pure, de toute façon, elle est pas forcément adaptée. Toi, en fait, t'avais une diète low carb, en fait, ce qu'on appelle low carb, ça veut dire que tu avais des glucides mais provenant des légumes, qui étaient, et voilà, et c'est quand on dit zéro glucides, c'est que t'étais surtout zéro féculents et légumineuses, quoi.
Exactement. Oui.
Et zéro sucre de merde et certainement zéro fruits.
Oui. Les fruits j'ai stoppé aussi, ouais, parce que j'avais tendance par moment à me taper des hypoglycémies, quoi, en fait. Donc c'était un peu compliqué, donc c'est pour ça que je me suis dit mais j'arrête, c'est pas la peine.
Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on dit souvent le fructose sur la glycémie, ça a pas d'impact, etc. Enfin pas réellement, machin. Alors que t'es pas le premier à me dire ça, que les fruits leur donnent des symptômes d'hypoglycémie. Alors je sais pas s'il y a pas une histoire aussi de réaction dans l'estomac. Par rapport à si tu sais le comment on appelle ça les effets tampons au niveau des acides et des bases qui peuvent un petit peu créer ces petits épuisements parce que en fait on n'a pas en fonction de l'heure de la journée la même digestibilité on digère pas aussi bien les fruits en fonction de l'heure de la journée, mais bon après là on tombe dans de la naturopathie etc, ça va peut-être pas intéresser les gens, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ton truc sans glucides, bon, moi, ça me choque pas parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, tu peux te permettre de remanger des glucides. Tu vas les apprécier mieux. Et je veux dire, entre guillemets, tu vas voir tout de suite quand tu es en excès ou pas, quoi.
Oui, je le vois, oui, parce que le week-end, par exemple, ça va être ça. C'est que mon repas triche, ça allait être du riz ou patates douces ou des choses comme ça. Et bon, certes, je les mange. Alors, ça m'est arrivé de manger un peu en excès, et là, je vois que j'ai sur le ventre de suite, ça fait comme un ballonnement, comme une petite couche, et puis le mardi, c'est fini, tout est reparti, quoi. Hein.
Ce week-end, j'en parle de tout ça, de tout cet effet, les gens qui craquent après le lendemain, ils sentent pas bien, ils se trouvent gras, etc. Enfin bon. J'en parle ce week-end là justement parce que c'est un sujet intéressant et que toi t'en parles, on voit qu'on est tous plus ou moins passés par là. Il y a des gens qui y sont pas encore passés, c'est quelque chose qui les attend. Donc, mais après aujourd'hui, je pense que pour revenir à ta question qui était sur la peur de regrossir, t'as pas, je te dis, ton mode de vie, cette peur, elle va disparaître avec les mois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va devenir tellement ton style de vie que cette peur, elle va disparaître. tu vois, tu ouais. Pour toi, ça sera tellement, c'est comme je dis souvent, ça sera comme te brosser les dents. Est-ce que tu as peur de plus pouvoir te brosser les dents? Ben là, c'est un peu la même chose, quoi. Tu vois, ça sera, pour toi, ça sera, ça sera ton mode de vie. Et puis, peut-être que, tu vois, bah, je prends le cas de l'entraînement. Il y a des gens qui se disent, oui, mais l'entraînement, quand j'aurai des enfants, etc., sera plus possible. Mais parce qu'en fait, ils restent focalisés sur la configuration qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont à la salle à 18h. Et donc, ils pensent que c'est ça ou rien. Ils oublient qu'ils peuvent y aller aussi entre les deux, y aller le matin. Ou alors, tout simplement, quand ils auront leur famille avec leur petit bout de maison de terrain et un garage, de virer les outils du garage et de se faire leur home gym, tu vois. Et les gens restent dans leur petit environnement en se disant « La configuration que j'ai aujourd'hui, je ne pourrai plus après, donc ça ne sert à rien. » Non, non, ta configuration aujourd'hui, elle est faite pour aujourd'hui, mais demain, ça sera différent.
C'est comme pour la bouffe, ça. C'est comme pour la nourriture, quoi. Le fait de mal manger, de manger des plats préparés et tout, c'est la même chose. Les gens se disent « J'ai pas le temps », mais ils vont pas chercher. Je pense que c'est une question d'envie, hein. Parce que tu vois, moi, quand j'ai démarré mon activité, quand je me suis mis à mon compte en tant qu'éducateur canin, je me suis dit « Bon, mais j'arrête la salle, mais je vais m'acheter tout le matos pour m'entraîner chez moi ».
Ouais.
J'ai trouvé une solution, tu vois. Après, je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, quand même, je m'ennuyais, puis les entraînements commençaient à devenir plus que pénibles. Je me suis dit, je retourne à la salle. Quand c'est que je peux y aller, je peux y aller entre midi et deux. Je fais ma maison, malgré ça, je vais m'octroyer quand même, à midi, je vais à la salle. Voilà, c'est tout.
En fait, pour moi, la vie, c'est des cycles. Tu vois, il y a toujours des cycles où tu as besoin de changer en permanence et chercher l'équilibre. Enfin, tu vois, chercher ce côté long terme, rassurant, etc., c'est pas bon. Tu vois, ce qu'il faut, c'est être conscient qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et peut-être que là, dans quelques temps, ça fonctionnera plus. Tu auras envie de nouveau de t'entraîner chez toi parce que tu auras une nouvelle énergie pour ça. Puis après, pour moi, ce sont des cycles et il faut flairer en fait le moment où tu commences à te faire chier pour te dire hop. Option B, il faut que je voilà. Mais bon, ça tu l'as bien compris. Quoi, maintenant, puisque c'est ce que tu fais plus ou moins.
Complètement, oui, complètement. Et voilà. Donc après, bon, voilà.
Okay. Mais écoute, je pense qu'on a fait pas mal. On a fait presque 1h30.
Ouais.
Donc ça fait un bon épisode. Merci pour ton témoignage. Je vais incruster les photos, comme ça au moins les gens, pendant l'écoute, ils pourront regarder les photos. Et puis, écoute, nous, on reste en contact pour la suite.